Avant de lire le texte qui portera la prédication de ce jour, qui est aussi un des textes proposés à toutes les églises pour ce dimanche, eh bien, il est utile que je vous fasse part du contexte. C'est un texte du livre de l'Exode, au chapitre 34. Cela se situe donc après la sortie d'Égypte, après la libération de la servitude. Moïse est monté sur le mont Sinaï, et y a reçu le contrat d'alliance et deux tablettes de pierre taillées et écrites par Dieu, dit le texte de l'Exode. Et le temps que Moïse monte, qu'il écoute, eh bien cela a pris du temps. Une durée qui est signifiée par plusieurs chapitres d'ailleurs dans le livre de l'Exode. Et pendant ce temps, le peuple resté en bas s'est impatienté que Moïse redescende du Sinaï. Et il a exigé d'Aaron de leur faire des dieux pour marcher devant le peuple. Et c'est l'épisode très connu du veau d'or auquel le peuple sacrifie. On se demande un peu pourquoi Aaron a cédé à cette exigence. Est-ce que c'était par peur du peuple ou peut-être par jalousie de Moïse? Mais en voyant cela, Dieu, Yahvé, s'est mis en colère. Moïse a alors intercédé pour que Dieu n'anéantisse pas ce peuple rétif, ce peuple à la nuque raide. Moïse a prié Dieu de ne pas se contredire, d'une part parce que si Dieu a libéré le peuple d'Égypte, ce n'est quand même pas pour le détruire ensuite. Que diraient les autres peuples? Et d'autre part, parce que la promesse faite aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, concernait ce peuple-là. Et Dieu a écouté Moïse et a renoncé à sa colère. Alors Moïse lui est redescendu du Sinaï, mais arrivé en bas, c'est lui qui s'est laissé emporter par un esprit de colère, et il en a brisé les deux tablettes taillées et gravées par Dieu. Et Moïse s'est aussi laissé emporter par un esprit de représailles. Il a ordonné aux hommes de la tribu de Lévi, restés fidèles à Dieu, de tuer les adorateurs du veau d'or, et ils en ont massacré 3 000, voire 23 000 selon certaines versions du texte. Ensuite, Moïse s'est entretenu avec Dieu dans la tente de la rencontre et Dieu lui a commandé de monter à nouveau sur le Sinaï et lui a promis de se montrer à lui, mais de dos seulement. Et c'est alors que nous pouvons lire le texte. Donc dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 4 à 9. Moïse tailla deux tablettes de pierre comme les premières. Puis Moïse se leva et tôt le matin monta sur le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les deux tablettes de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant: le Seigneur, Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et clément, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Et il dit: « Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » C'est une nouvelle chance que Dieu donne au peuple. Une nouvelle chance de l'écouter, de croire en lui, de vivre comme son peuple. Une nouvelle chance. L'alliance est reprise, puisque la première fois, le processus de conclusion avait été gâché avant même que le peuple ait été vraiment informé de ces termes. L'alliance commence à nouveau et commence dans cette brisure, dans une brisure initiale, du fait de ce peuple qui a voulu une représentation de Dieu. Alors c'était donc un veau d'or, ce qui est une représentation conforme aux représentations de bien des autres dieux dans le Proche-Orient ancien. En dépit de ce que Dieu avait fait pour lui, la libération d'Égypte, le peuple a voulu définir par lui-même finalement les modalités de l'alliance avec cette représentation. Et il s'est ainsi tourné vers autre chose que le Dieu libérateur de l'esclavage, en rabattant ainsi sa compréhension de Dieu sur celle des autres divinités. Un peuple rétif, dit Moïse, un peuple à la nuque raide, un peuple qui a été soumis et qui a cédé à une tentation qui n'est pas sans en rappeler une autre, celle de la Genèse, celle du Jardin d'Éden, la tentation de prendre Dieu pour qui il n'est pas, et en conséquence, de se tromper sur soi-même. Alors d'emblée, il est indiqué que la perfection n'est pas un idéal ni un objectif. Il ne s'agit pas de fatalité ni de résignation, mais de la conscience d'une limite humaine. Le goût, le rêve de la perfection, ou du zéro faute, comme on dirait aujourd'hui, vous savez, dans certaines publicités, zéro tracas, etc. Voilà. Eh bien, ce goût de la perfection, avec son exigence extrême et son intransigeance, ce rêve-là ne participe pas de l'alliance. Et au contraire, il signale plutôt un extrémisme qui cherche toujours la faute, toujours des coupables, et qui se révèle toujours mortifère. Tous les monothéismes sont porteurs de cet extrémisme redoutable. Et dans le récit de l'Exode, au pied du Sinaï, c'est Moïse qui en est l'exemple, lui qui transforme les Lévites en une espèce de clergé militaire pour massacrer plusieurs milliers de personnes. Cette impossibilité de perfection dans la tenue de l'Alliance, eh bien, Dieu la prend cependant en compte. Et cette prise en compte ira jusqu'au royaume ouvert par Jésus le Christ, ouvert aux brebis perdues, aux pécheurs toujours péchants et qui continuent à pécher, et même aux pécheurs qui font profession de leur péché, comme les prostituées ou les collecteurs d'impôts. Et ils y entreront même avant les justes et avant ceux qui veulent y entrer à tout prix. Alors décidément, cette imperfection ne constitue pas un obstacle. Dieu se présente lui-même comme l'accompagnant, avec fidélité et avec tendresse. En effet, la nouvelle chance commence par une présentation de Dieu, même une auto-présentation de Dieu. Et une présentation d'ampleur est beaucoup plus précise que ce qui avait été révélé à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent, quand Dieu lui avait dit « Je suis qui je suis » ou « Je serai qui je serai ». Et cette présentation de Dieu dit aussi forcément quelque chose du peuple, quelque chose de l'humain, quelque chose de la compréhension que le peuple, l'humain, peut avoir de lui-même. Parce que tous les termes successifs sont des termes de relation, puisque ce sont des termes d'alliance, et qui orientent cette alliance dans un esprit bien particulier, un esprit entièrement favorable et disposé au don. Dieu compatissant et clément. Alors clément, c'est en hébreu un terme qu'on pourrait aussi bien traduire par « fait grâce ». La grâce est le cœur de cette clémence et aussi de la compassion. Dieu est patient, plus exactement, littéralement, lent à la colère. Il est abondant en fidélité et en vérité, tellement abondant que cette fidélité s'étend sur au moins 1000 générations, parce que d'autres versions disent des milliers, donc plusieurs milliers de générations. Et c'est un Dieu qui supporte, qui pardonne, le verbe est le même, les fautes, les révoltes et le péché. C'est vraiment un Dieu qui est sans illusion sur son peuple. Et donc un peuple, au moins nous, enfin les lecteurs du livre de l'Exode, bien avertis que cette alliance sera à maintes reprises ébréchée, repoussée, et qu'elle ne tient donc pas à la capacité du peuple à y rester fidèle, mais à la volonté de Dieu de la reprendre. Et c'est bien Dieu qui la reprend dans ce récit. C'est lui qui effectue la reprise, qui donne une nouvelle chance à ce peuple rebelle, qui passe par-dessus des routes et des orientations, renonçant également à la vengeance, aussi bien qu'à se désintéresser de ce peuple ingrat. Et cela ira jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection du crucifié qui a signé une nouvelle reprise, nouvelle et dernière dans son universalité et sa radicalité d'accueil. Pour autant, faute, rébellion, transgression, péché ne sont pas purement et simplement effacés, comme s'ils n'avaient pas été commis. La suite de la présentation de Dieu est claire. Dieu n'innocente pas le coupable. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui a été fait, mais la reprise est possible, est toujours possible. Pour le peuple, pour l'humain, pour nous, cela indique que par le pardon, par la grâce, le passé ne laisse pas la suite du temps et l'avenir d'un poids de culpabilité. Un nouveau sens est donné au passé. Et cela, dans le temps de la reconnaissance de la faute, de l'erreur, de l'errance, auquel répond la grâce déjà là. Et cela, nous le connaissons. Nous venons de le vivre, de l'éprouver, de l'expérimenter. Dans la liturgie du culte d'aujourd'hui, c'est la signification de la place de la prière de repentance ou prière de conversion qui est inscrite dans cette liturgie entre l'annonce de la grâce, l'accueil inconditionnel au moment de l'accueil, et l'annonce du pardon. Et c'est ainsi qu'une histoire nouvelle peut commencer. C'est ainsi qu'un récit peut être repris, libéré dans cette articulation mais qui décale, libéré du poids de la culpabilité passée et ouvert vers une nouvelle perspective grâce au pardon. Et nous en sommes avisés. Et non avec l'injonction de ne plus commettre d'erreurs ou de fautes, puisque la perfection n'est pas un objectif. Nous en sommes avisés pour une prise de conscience du danger de se représenter Dieu autrement que comme il se donne à connaître à travers ce récit, et surtout à travers Jésus le Christ. Nous sommes avisés pour prendre conscience du danger d'attribuer à Dieu les caractéristiques d'autres dieux, des caractéristiques issues des logiques mondaines de rétribution, de vengeance, de compte à rendre. Le Dieu qui se présente au Sinaï, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas un Dieu pourfendeur, c'est un Dieu créateur et recréateur, par grâce, qui restaure la vie intérieure, qui réintègre dans des relations justes et ajustées, qui guérit le regard sur soi et sur autrui, pour conduire chacun dans sa véritable mesure d'humain. Mais il reste encore une dernière partie à la présentation de Dieu dans ces versets. Un Dieu qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ça nous fait quand même sursauter. Ça nous donne quand même un peu mal au cœur. Parce que c'est comme si tout ce qui précède dans la présentation était biffé. Alors on peut penser plusieurs choses. On peut penser que les chiffres 3 et 4 servent à mettre d'autant plus en évidence les mille et milliers de générations bénéficiant de la fidélité de Dieu et que cette fidélité prime très largement sur le risque de la punition. La balance penche largement du côté du pardon. On peut aussi penser qu'un rédacteur du texte, appartenant à une époque et à un milieu théologique où il était difficile de faire l'impasse sur la notion de jugement et de condamnation, eh bien, soit l'a ajoutée, soit a tenu à la mentionner dans le récit. On peut encore penser que c'est quand même une logique bien humaine que de faire peser les fautes des pères sur les enfants. Vous savez, quand on dit « tel père, tel fils », « telle mère, telle fille ». Ou quand on juge un fils d'après les actes de son père, et puis en parlant de lui, on dira « oui, vous savez, c'est le fils d'eux ». Et c'est comme une marque de méfiance, voire d'infamie, posée sur cet enfant. Et le rédacteur du récit, eh bien, aurait voulu rendre compte, puisqu'il n'y a pas échappé lui-même, à cette logique très humaine. On peut également considérer qu'il s'agit là de l'expression d'une expérience fréquente, que les conséquences des fautes des pères sont supportées par les générations proches et suivantes, jusqu'à 3 ou 4. Et cela avant que la 4e ou 5e génération puisse vivre en n'ayant plus à supporter ce poids comme un poids, soit parce que la faute est oubliée, soit parce que cette génération, finalement, au fil du temps, a pu intégrer les conséquences successives dans sa propre manière de vivre. Mais on peut aussi chercher du côté de la traduction du texte hébreu. Et le verbe traduit dans la Nouvelle Bible Seconde par « faire rendre des comptes », traduit dans d'autres versions carrément par « punir », ce verbe « pakad » recouvre un grand nombre de significations. Rien que dans la traduction œcuménique de la Bible, il y a au moins 25 verbes différents pour traduire ce seul verbe-là. Et cela va de chercher à se souvenir, de compter, à examiner, de confier un dépôt, à soigner, de regretter, à visiter. Alors choisir, faire rendre compte ou même punir, parce qu'il est question précédemment de fautes, de péchés, eh bien cela semble logique. Mais c'est quand même complètement en contradiction avec tout ce qui précède. Et aussi avec tout ce qui suit quand Moïse répond à Dieu en disant « Tu pardonneras notre faute et notre péché et tu feras de nous ton patrimoine. » Alors non. Non, Dieu ne punit pas les fils et les petits-fils pour les fautes des pères. Mais oui, Dieu visite ou Dieu soigne les enfants et les petits-enfants des pères qui ont commis des fautes. Et surtout pas, il ne vient pas les accabler. Mais il vient pour une visite, un soin bénéfique qui soulage, qui apaise et qui redonne confiance en eux quand la faute des pères les a fragilisés, parce que l'être humain est comme ça, que sa mémoire est ainsi faite, que les fautes sont appliquées aux successeurs de ceux qui les ont commises. Ce Dieu donne une nouvelle chance pour une vie autre. Une vie dans laquelle on a compris un peu mieux ce que signifie la grâce, dans laquelle on a pu grandir en humanité, dans laquelle on a pu recouvrer confiance en soi, dans laquelle on est capable d'un peu moins se mentir à soi-même, une autre vie dans laquelle on est capable d'un peu plus de confiance et d'amour, et une vie dans laquelle on est rempli de gratitude, pour la nouvelle chance, pour le nouveau commencement, pour qui je suis, qui je deviens devant ce Dieu aimant, compatissant, fidèle et qui fait grâce. Ce Dieu est celui qui nous permet d'interpréter aujourd'hui qui nous sommes. Peuple aimé, humanité tant aimée. Non que tout soit aimable, mais n'avons-nous pas éprouvé assez d'indifférence et de mépris pour comprendre la confiance et l'amour ? N'avons-nous pas assez supporté la trahison et l'abandon pour aspirer à la fidélité et à l'engagement? N'avons-nous pas supporté assez de paroles creuses, de paroles vaines, de paroles faussées, de paroles mensongères pour désirer la fiabilité, les paroles fiables? N'avons-nous pas assez souffert de rêves de grandeur pour souhaiter l'humilité, la simplicité, la sobriété? Interpréter qui nous sommes dans le temps qui vient. C'est ce à quoi Dieu nous appelle pour toujours, encore, une nouvelle chance dans un nouveau jour. Comme il appelait Moïse, qui commence à gravir la montagne tôt le matin. Et même si c'était Pentecôte que nous avons célébré dimanche dernier, c'est à Pâques. À Pâques que cette aube peut faire penser. Qu'est-ce qui se lève à nouveau à l'aube, tôt le matin? Un jour qui commence sans que nous y soyons pour rien. Un jour à recevoir comme un don, auréolé d'une approbation qui précède et accueille chacun. Un jour nouveau pour recevoir le nom de Dieu, la présence de Dieu, l'alliance. Et même si l'on se trouve dans un désert, recevoir le courage de vivre et d'avancer. Frères et sœurs, amis, bonne journée.